dictionnaire de la sagesse ancienne. Cette émission présente les idées fondamentales de la sagesse ancienne, qui comprend les traditions initiatiques du passé et les enseignements ésotériques modernes. Durant une heure, nous allons vous présenter quelques mots-clés et tenter de les définir pour vous. Bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Allez, je prends le dictionnaire et je tombe sur la lettre C, le mot causal, C-A-U-S-A-L, causal.
Ça c'est du jargon, hein.
Oui.
Jargon Alice Bellet, hein, ou Madame Blavatsky aussi, on peut trouver ce terme. Quoique le terme existe en sanskrit, on a la notion de karana sharira. Sharira c'est une enveloppe, et karana ça vient d'une racine kri, faire, c'est causer. C'est l'enveloppe qui cause, qui produit.
Mmh, donc, l'origine.
Voilà, c'est quelque chose, c'est en fait notre âme individuelle, c'est vraiment le corps de notre âme qui produit l'incarnation, ce dont on a souvent parlé, ou la réincarnation, si on veut se placer dans une dynamique temporelle.
Donc l'âme a un corps alors ?
L'âme a un corps, c'est un énorme lotus, nous dit Alice Bellet, c'est beaucoup traduit, décrit dans le traité sur le feu cosmique par exemple.
Un ouvrage d'Alice Bellet.
Voilà, c'est un lotus qui aurait 12 pétales. Et cet énorme lotus serait donc une sorte d'énorme chakra, une énorme sphère d'énergie, sur les plans qu'on appelle causal ou du mental supérieur, hein, au-dessus du mental humain habituel. Et c'est lui qui causerait la réincarnation, c'est lui qui fabriquerait en quelque sorte sa personnalité. Alors le corps physique, lui, on est d'accord, hein, il est créé par les parents, hein, hein, par le brassage des gènes du père et de la mère. Mais les autres corps qu'on appelle subtils sont vraiment créés par l'âme, proprement dit. L'âme va choisir son milieu, donc les parents, le milieu familial qui va correspondre à son chemin d'évolution, et elle va tisser le long d'un fil ancré dans le cœur. On peut se représenter comme des atomes, hein, comme des perles le long d'un fil. Trois atomes permanents, elle va créer, donc le corps causal va construire, attirer de la matière mentale pour créer le corps mental. La matière émotionnelle pour créer le corps émotionnel, l'énergie éthérique qui va stimuler, créer en fait une sorte de double subtil de l'embryon, puis après du corps de l'enfant, puis celui de l'adulte, notre fameux corps énergétique. Donc le corps causal, c'est synonyme d'âme individuelle en fait. Hein. C'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux, d'un point de vue ésotérique, n'auraient pas de corps causal, ils n'auraient pas encore d'âme individuelle. C'est quelque chose qu'on appelle l'individualisation, le passage où un animal va sortir de l'âme groupe animal et devenir un individu au sens humain du terme, c'est-à-dire donc ça, il va être son étincelle en quelque sorte va être doté d'une âme individuelle et il va s'incarner dans un corps humain. Donc voilà, ce qui nous différencie de l'animal, c'est notre âme individuelle, ce corps causal qui nous permet d'avoir la conscience de soi. Elle est sur le haut du mental, et grâce à cette conscience de nous-mêmes, on peut utiliser notre pensée avec une sensation d'être un être à part entière. Hein, ce que les animaux n'ont pas, quand ils boivent, ça boit. Ils se disent même pas, ça boit, enfin, ils boivent, tout simplement. Ils n'ont pas une conscience réfléchissante, une conscience qui se regarde, qui peut observer ses pensées, ses émotions, ses sensations. Ils vivent les... D'ailleurs, ils n'ont pas de pensée, ils vivent les...
Alors ça, c'est contesté, l'avis de certaines personnes qui ont des animaux domestiques ne sont pas d'accord avec ce que tu... ne seraient pas d'accord avec ce que tu dis là.
Alors, pas de pensée au sens humain du terme, parce qu'ils voient que les animaux, ils ont des émotions, moi j'en suis persuadé, hein. Ils ont des émotions et ils sont domestiqués, donc ils ont un début. La domestication, c'est quelque chose de mental, en fait, c'est un début de maîtrise, hein. En quelque sorte, quand on peut domestiquer un animal, cet animal est suffisamment évolué pour ça.
Ça veut dire qu'il est capable de se maîtriser lui-même, oui, un minimum, pour renoncer à son instinct pendant un temps.
Mais ce que l'on dit, c'est que les animaux font ça beaucoup par dévotion, par l'amour du maître, ou par le réflexe de Pavlov, on connaît, hein, avec le chien qui bave, et avec le morceau de sucre, si je me souviens bien. Enfin, il y a un phénomène de conditionnement, c'est pour ça qu'il faut répéter X fois. mais il n'y a pas une conscience de lui-même. Donc on ne peut pas parler de pensée telle qu'on l'entend nous. Il y a une activité psychique, ça c'est certain. Mais il n'y a pas une conscience, il ne se considère pas comme un être à part entière, sinon il parlerait. Ça aussi, c'est intéressant de voir que on a vu que les animaux avaient les organes de la phonation pour parler, mais ils émettent des cris. Il n'y a pas la conscience individuelle. C'est aussi la différence avec le singe. On dit qu'on partage, je sais pas, 99% de gènes communs. On est pratiquement le même mammifère, mais il y en a un qui est muet, il y en a un autre qui va dans l'espace. Ben voilà, c'est le corps causal qui fait la différence de et qui crée l'abîme entre le chimpanzé. Enfin, le chimpanzé, pardon, le singe, qui appartient au règne animal et l'homme.
Un nouveau mot, un autre mot dans ce dictionnaire de la sagesse ancienne, et c'est un mot, oui, qui va nous prendre peut-être pas mal de temps, David, c'est le mot conscience. Diable, c'est pas facile de définir la conscience.
Je dirais, c'est comme le mot énergie, essayer de décrire l'énergie, en parlant d'énergie, justement, vous allez avoir tendance.
On peut la décrire par ses effets, peut-être, plus que par ce qu'elle est.
Moi, je dirais que la conscience, c'est ce qui nous met en relation avec quelque chose. Par exemple, la conscience mentale nous met en relation avec le plan mental, avec les pensées. Donc, on va pouvoir penser, mais pour pouvoir penser, il faut être conscient mentalement, tout simplement. Donc, la conscience émotionnelle, elle va nous mettre en lien, en relation. Alors, tous les mots comme lien, relation, médiation, c'est synonyme de conscience.
Oui, mais que ce soit des liens conscients.
Ben voilà, tu t'as dit que tu as en fait défini, il faut que ce soit des liens conscients, mais la conscience est consciente, forcément. Sinon, on est inconscient, justement, on n'a plus de relation quand on est dans le coma, ou alors évanoui, on n'a plus de conscience avec le plan physique. La conscience est retirée temporairement du cerveau. Donc, quand on rêve, on n'a plus conscience forcément de son corps physique, mais on est dans le plan émotionnel, dans le plan de l'imaginaire. Donc, on voit que la conscience peut aller et venir dans différents états.
Il y a des expressions qui permettent peut-être d'appréhender un peu le concept de conscience, et lorsqu'on parle d'une expansion de conscience, par exemple.
Oui, moi j'aime pas trop ce terme parce qu'il est trop horizontal. Tu vois, par exemple, tu peux te promener dans la nature et avoir une expansion de conscience d'un point de vue horizontal. Donc tu t'expands de plus en plus loin. T'as l'impression que tu fais partie au début des premiers arbres, puis du plus loin des pierres, puis de la forêt entière. Mais c'est pas forcément un niveau de conscience élevé, mais tu t'expands. Alors que quand on hisse sa conscience, forcément, à un moment, on entre dans un état méditatif, c'est-à-dire un état où, en fait, la conscience sort du mental pour se placer dans son niveau où elle est sans pensée. Ce qui n'est pas un état de non-conscience, c'est un état de non-pensée. Et c'est la conscience pure, c'est ce qu'on appelle l'âme. Donc on pourrait dire en langage ésotérique que âme et conscience sont synonymes. sans
Donc
âme,
c'est un
pas
état
de conscience.
encore supérieur à l'état d'observateur.
C'est un état où on est vraiment pleinement conscient, on pourrait même dire surconscient. On dit parfois supraconscient, c'est une supraconscience. C'est une conscience qui est sur son propre niveau, à l'état pur. Donc elle n'est pas parasitée, gênée, attirée, interpellée par ce qui se passe dans notre mental, par nos émotions, dans notre corps émotionnel, dans notre corps physique, par les sensations diverses, agréables ou désagréables, peu importe. Donc la méditation, on pourrait dire, c'est l'art de transférer sa conscience dans son lieu de résidence ou de l'y retrouver. C'est-à-dire sans état psychique inférieur, pas inférieur, sans connotation péjorative, inférieur, c'est-à-dire des états transitoires.
Donc c'est à la fois un... tu disais, c'est un peu l'équivalent de l'âme, hein, donc c'est l'équivalent de l'âme.
C'est synonyme, oui.
Voilà, donc c'est à la fois une entité, hein, on peut dire l'âme c'est une entité, et c'est à la fois un état.
Oui, c'est l'état qui est lié à cette entité, à ce niveau-là. Alors entité, il ne faudrait peut-être pas le comprendre comme un être différent de nous, c'est vraiment... nous, on a... l'âme est infusée, elle est imprégnée, elle est descendue, sa conscience est partout en fait. Mais elle varie comme une graduation en fait. Hein. Plus on fait monter la graduation, plus on monte et on se rapproche de sa source. C'est ça l'idée. Mais on peut avoir conscience jusqu'au bout de ses pieds. Fort heureusement, on peut même développer différentes formes de conscience.
Il y a un lien avec la perception, alors, sur la conscience. Percevoir de plus en plus loin, de plus en plus large. On parle des fils de conscience aussi.
Oui.
Un petit peu comme si on était une araignée au centre d'une toile et puis on jette nos fils à distance. On touche des petits points comme ça, hein, loin, proche, en haut, en bas, partout. Et à chaque fois qu'on touche un petit point, ben on en prend conscience. C'est des prises de conscience.
Oui, il semblerait que plus on développe la conscience verticale, plus parallèlement une conscience horizontale. Donc là, du coup, l'expansion de conscience se comprend comme cela. Hein. C'est-à-dire, plus un être est évolué, plus sa conscience est élevée, mais plus en même temps elle englobe un vaste monde. Alors nous, c'est le monde de notre corps, hein, ou de nos corps, mais on parle de logos ou de conscience planétaire. Donc là, c'est un niveau beaucoup plus élevé que le nôtre.
Donc un être...
Et en même temps, d'un point de vue, tu vois, horizontal, du point de vue de l'expansion, ça implique une planète. Ça peut être un système solaire complet. On va parler de logos solaire, ou de conscience solaire. Ça peut être une constellation, ça peut être une galaxie entière. Donc on voit qu'on peut vraiment élargir le champ de la conscience jusqu'à la totalité du cosmos, et on dirait que c'est la conscience de Dieu. Qui est non seulement qui est partout dans son corps, le cosmos serait son corps, mais qui serait à des niveaux aussi qui nous sont complètement étrangers. Il y a même un niveau qui est derrière la création, dit-on, hein, un niveau absolu auquel on n'a pas accès. Donc dans l'ésotérisme, on donne souvent un truisme comme ça. On dit que la conscience dépend du véhicule à travers lequel elle s'exprime. Comme si la conscience était une. En fait, c'est pas comme si elle est une, mais elle semble se fragmenter selon les différents niveaux, les différents corps, les matériaux, hein, les substances à travers lesquelles, les énergies à travers lesquelles cette conscience va s'exprimer, va être plus ou moins limitée. Donc la conscience universelle devient conscience minérale dans le règne minéral, devient conscience animale dans le règne animal, etc. Donc plus on monte dans l'échelle de l'évolution, plus on se rapproche de la vaste conscience universelle en quelque sorte. On serait tous des fragments. Il n'y aura pas plusieurs formes de conscience qui s'additionnent, mais il y aurait une conscience unique qui semble se fragmenter à travers les différents véhicules, les plans à travers lesquels elle s'exprime.
Donc si on rétablit le lien entre nos véhicules d'incarnation et ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, on va supprimer cette séparation donc, qu'il y aurait entre les différents aspects de la conscience. Et on se réunifie avec le tout, avec l'un.
Bien sûr, et ça va même plus loin que ça, c'est on se rend compte que ça n'a jamais été séparé. Que la sensation de séparation était une illusion. C'était un voile, on a souvent parlé de l'illusion. Un voile qui nous empêchait de nous rendre compte que par exemple tous les hommes sont frères, parce qu'ils sont unis dans une même conscience. Il y a une conscience spirituelle, il y a une âme spirituelle de l'humanité. Et on peut aller plus loin avec la nature. Ce que les expériences que peuvent vivre les chamans, on pourrait tout simplement tous vivre le fait qu'on est uni à la nature. On n'a pas à créer un lien. On l'a perdu peut-être. Les enfants l'ont naturellement d'ailleurs. Plus on les conditionne, plus ils vont le perdre rapidement. Mais on a tous un lien avec la nature, avec tout le vivant. Et on pourrait pousser ça plus loin en disant qu'on est relié au système solaire. Que les planètes sont reliées entre elles. Que tout fait partie d'un même organisme. Donc voilà, plus on élève sa conscience, plus on prend conscience qu'on fait partie d'un vaste réseau, d'un vaste champ. C'est un océan en fait, hein.
Et quand on parle de niveau de conscience, alors ça signifie simplement que on peut être plus ou moins branché sur son être profond de façon permanente, constante et
C'est vertical pour moi, oui.
c'est vertical, oui.
Ouais. Alors vertical, là aussi, c'est une façon nous graphique de nous représenter l'évolution, c'est-à-dire un plan au-dessus d'un autre. Mais on peut les représenter tous mêlés, mais avec une notion de multidimension. Hein, c'est-à-dire que dans mon cerveau, on peut dire bah, là, c'est juste la conscience physique et au-dessus, c'est les consciences supérieures. Mais non, dans mon cerveau, je peux déclencher ou ouvrir des portes pour des états de conscience supérieure sans monter vraiment. Donc c'est simplement, c'est presque conventionnel de se représenter le ciel au-dessus, donc les niveaux supérieurs, mais en fait c'est multidimensionnel. Au même endroit, il y a toutes les formes de conscience, mais elles ne sont pas forcément réveillées en quelque
Elles sont
sorte.
imbriquées plutôt que les unes
Voilà.
au-dessus des autres.
Oui, ça serait plus juste, je pense. Donc, un des axiomes profonds de la sagesse ancienne, c'est qu'il y a une seule conscience et qu'elle s'exprime à travers différents règnes, différents plans, différentes substances. Et que là, elle semble se différencier, mais sur le chemin de l'évolution, on réintègre cette conscience unique.
Il y a un auteur aussi que tu dois connaître, c'est Aurobindo, David, lui
Ouais.
qui parle donc de supraconscience, de différents termes comme ça. Tu peux nous en dire quelques mots?
Je connais pas très bien son œuvre. Je sais qu'il a utilisé beaucoup l'enseignement de Vivekananda. D'ailleurs, c'est quelque chose de pas très connu, c'est qu'il était inspiré. Il dit qu'il a eu un contact avec Vivekananda. Un avatar, hein, lorsque Aurobindo était lui en prison, un contact spirituel, et on retrouve comme chez Vivekananda l'idée de faire de créer une forme de yoga de synthèse, de yoga intégral. Et il a, à travers son jargon à lui, hein, les différents maîtres orientaux ont chacun leur jargon, mais il y a aussi bien sûr chez lui une notion de strate, de niveau de conscience, que l'on réintégrerait au fur et à mesure, avec l'idée aussi que l'humanité, chaque être humain récapitule l'histoire de l'homme et puis du monde, et qu'au fur et à mesure on intègre des espaces comme ça de plus en plus élevés. Plus on s'élève par exemple dans la culture, c'est une forme de conscience, mais au-dessus il y a l'initiation. Non, ça c'est moi qui le dis, hein, c'est pas Aurobindo, je le cite pas là, mais il y a eu plusieurs auteurs, tout ça pour dire qu'il y a eu plusieurs auteurs qui ont, à travers des vocables différents, exprimé ces notions de niveau. Et de niveau inclusif. Plus on monte, plus on intègre ce qui est en dessous. Le plus grand inclut le plus petit, alors que l'inverse, non. Le plus petit ne peut pas inclure le plus grand. Parce qu'on se rapproche de la conscience une, donc on intègre de plus en plus d'éléments, de règnes, de niveaux, de strates.
vous écoutez le dictionnaire de la sagesse ancienne. Et nous prenons un nouveau mot que nous allons tenter de décrire, de définir un petit peu. C'est le mot rayon. Un rayon, des rayons d'ailleurs, avec un grand R. Qu'est-ce que ça cache? Un rayon, ça évoque les énergies. Ce sont des rayons d'énergie, ce sont des formes que prennent l'énergie primordiale.
Ça fait penser à rayonnement, hein, quelque chose qui rayonne à partir d'une source, hein, donc des émanations d'énergie en fait. Hein. Émanation, ça pourrait être synonyme, des émanations, des rayons. Dans l'enseignement ésotérique, il y a 3 qui deviennent 7 rayons. Hein. On a toujours ce chiffre, il y a 1, 3, 7. L'idée qu'il y a d'abord un absolu, une trinité, et à partir de la trinité, il y a 3 premiers rayons qui vont émaner, qui vont en donner 4 autres, et on va avoir 7 rayons, 7 comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. À la symbolique pour nous, ça serait dans notre système solaire, le soleil qui émane ces 7 couleurs, ces 7 rayons. Le rayon primordial, ça serait la couleur blanche en quelque sorte, hein, qui n'est pas une couleur en fait, hein, le blanc qui est neutre. Et on a, voilà, ces 7 rayons. Bah, l'ésotérisme dit qu'il y a 7 rayons universels qui ont jailli à partir du Big Bang et qui ont créé différents univers qui sont mêlés entre eux, constamment, cycliquement, et qu'on serait constamment sous l'effet de ce balayage de rayons qui donne des sous-rayons, puis des sous-sous-rayons, etc. Il y aurait vraiment un grand brassage cyclique d'énergie. Donc l'astrologie est reliée aux rayons, parce que les signes et les planètes transmettent ces rayons-là. Et on dit que, que la Terre est comme un organisme humain, avec ses propres chakras, comme un corps humain, qui reçoit ces rayons-là. Il y en a 7 principaux, qui est distribué à l'ensemble des autres chakras mineurs dans la planète. Donc ça touche des continents, des pays. Les pays sont sous l'influence de rayons. Les villes, et puis les individus eux-mêmes sont sous l'influence des rayons. Donc ça couvre un champ unique, un champ complètement nouveau. Grâce à l'enseignement d'Alice Bellet, on a maintenant traduit dans un langage assez moderne cet enseignement septénaire que l'on trouve dans plein de traditions anciennes. On a souvent le septénaire qui revient dans la Bible, il est présent des dizaines et des dizaines de fois, le mot 7. C'est pas des centaines d'ailleurs. On trouve dans plein de traditions un ensemble de 7 dieux qui représentaient en fait dans le savoir ancien ces 7 rayons.
Donc les différentes qualités du dieu unique.
Voilà. Et à chaque fois, bien sûr, à l'intérieur du système solaire, on est à l'intérieur d'un sous-système, mais on peut grandir, on peut au contraire rapetisser, miniaturiser le système et concevoir qu'à l'intérieur de la planète, on retrouve encore, à partir d'un rayon central de la planète, on retrouve encore ces 7 rayons. Donc on est toujours dans le sous-rayon d'un sous-rayon, en quelque sorte. On n'est pas dans les rayons purs du début de la création. Et donc la diversité du vivant, des formes, des expressions, des qualités, sont le résultat de ces rayons-là. Alors on dit souvent, dans les enseignements d'Alice Bellet, donc on recommande aux lecteurs l'ensemble du traité sur les 7 rayons, si les gens veulent vraiment entrer là-dedans, qui commence par le premier livre, Psychologie ésotérique, volume 1, où les 7 rayons sont présentés, c'est très intéressant. On dit donc que chaque entité, chaque être, a un rayon d'âme, un rayon spirituel, qui est sur un des 7 rayons, et un rayon de personnalité. Donc déjà, c'est ce qui nous différencie. C'est intéressant de voir qu'on n'a pas tous une âme sur le même rayon. On n'est pas tous reliés à la même énergie. On ne voit pas tous et on n'expérimente pas Dieu de la même façon, en quelque sorte. C'est comme s'il y avait plusieurs visages. 7 visages à Dieu et qu'il y a un visage qui nous parle plus. On n'est pas séparé des autres, mais on voit les autres, les 6 autres, à travers un. Alors on peut quand même citer, Olivier, quelques mots-clés pour... Et on s'arrêtera peut-être là-dessus, parce que c'est un sujet tellement immense. Citer chacun des mots et des caractéristiques de...
Donc le premier rayon, qui est le rayon du pouvoir, qui est le rayon de la volonté. Donc c'est un rayon qui va se manifester chez les personnes qui sont, par exemple, dans les grands politiciens de l'histoire, dans les grands chefs de guerre...
Les empereurs, etc.
Oui,
Charlemagne, par exemple, Alexandre le Grand, voilà, c'est des incarnations typiques de premier rayon.
Alors, quelles sont les caractéristiques de ce rayon plus en détail?
Tu l'as dit, je pense, hein, volonté, puissance, pouvoir, autorité naturelle, spirituelle, vision large.
Donc une personne dont l'âme serait imprégnée de ce rayon manifesterait davantage ces qualités-là. Et aussi probablement donc des...
Les défauts.
Les défauts.
Voilà, quand ce rayon est mal équilibré ou mal... qui s'exprime incorrectement à travers la personnalité, ça peut donner bien sûr des personnes assez cruelles, assez froides, dures. Enfin, on ne peut pas se permettre forcément de tous les décrire là, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais on peut quand même citer
Donc deuxième
les autres
rayon,
rayons.
continuons. Alors deuxième rayon, c'est le rayon de l'amour, de la sagesse. C'est le rayon des personnes qui sont sur ce rayon vont être des personnes qui vont travailler par exemple dans la santé, dans l'éducation, dans beaucoup en lien, des gens qui vont manifester beaucoup d'empathie avec les autres.
C'est le rayon des grands instructeurs spirituels aussi, hein, comme le Christ, le Bouddha, qui sont les grands archétypes de ce rayon-là, l'amour pour le Christ, la sagesse pour le Bouddha. Mais voilà, on a des gens qui vont enseigner, qui ont une qualité innée, voilà, pour conduire, guider, enseigner et comprendre l'autre.
Troisième rayon, c'est le rayon de l'intelligence active,
Et,
c'est
ou abstraite, on dit aussi.
abstraite.
Alors là, on a une grande variété, c'est ceux qui ont une aisance à développer leur intelligence active, créatrice, qui manipule aisément soit les concepts,
Les
c'est des
philosophes.
philosophes ou alors des penseurs, des écrivains, ou alors ils vont manipuler facilement l'argent. Le problème, c'est qu'ils manipulent tout et parfois aussi les gens. Donc ça peut être aussi des grands manipulateurs, c'est leur grand défaut.
Quatrième rayon, c'est le rayon de l'art, de la beauté,
De l'harmonie.
l'harmonie à travers le conflit, dit-on.
Oui, c'est un rayon que forcément qu'on va retrouver beaucoup chez les artistes, mais pas seulement, hein. Ce sont ceux qui vont trouver un équilibre, mais d'abord en rencontrant les paires d'opposés, différentes paires d'opposés, les choses qui semblent contradictoires. Et ces âmes essayent constamment de créer cet équilibre, de les rapprocher.
Créer l'harmonie, ouais.
Alors ça peut être aussi facteur de conflit, ou alors ça peut donner parfois même plutôt l'inverse, peut-être par expérience aussi, hein, une sorte de refus du conflit. Il y a en tout cas quelque chose qui tourne autour du conflit au niveau de la personnalité dans ces rayons-là, dans
Donc
ce
ça, ce
rayon.
sont les grands artistes souvent qui sont sur ce rayon, hein.
Oui, ils ont une vie d'ailleurs et des cycles bien à eux, pardon, très très actifs pendant un moment, puis après peut-être très passifs. Enfin, ils passent facilement
Un peu chaotique.
voilà, d'un état à un autre.
Cinquième rayon, c'est le rayon de la science concrète.
Science, connaissance concrète, oui.
Connaissance concrète. Donc c'est le rayon des scientifiques, des gens qui sont très analytiques.
Voilà, qui ont le souci du détail, de l'investigation. Donc bien sûr, là, on va avoir des grands chercheurs. On a pas mal de Français, hein, parce que l'âme de la France, on disait que les pays étaient sur un rayon, l'âme de la France est sur le cinquième rayon. Donc on a une culture en France très scientifique, très cartésienne. Descartes est un archétype du cinquième rayon.
Sixième rayon, c'est le rayon de la dévotion,
Idéalisme.
l'idéalisme. Hein, ça peut être la dévotion à un idéal. On va se mettre au service d'une cause, par exemple. Ça peut aller jusqu'au fanatisme.
Religieux, mais politique aussi, hein, social, révolutionnaire, peu importe la cause, on peut y être jusqu'au boutiste et ça peut être donc le défaut. Mais les qualités, c'est bien sûr beaucoup de courage, de persévérance tant que l'idéal est là, le sens inné du sacrifice de soi pour un plus grand bien.
Est-ce que ce serait le rayon des grands saints chrétiens, par exemple,
Voilà le.
des martyrs ou...
On sort de 2000 ans d'ère des poissons où ce rayon a été prédominant.
Alors, septième rayon, donc septième qualité d'énergie, c'est le rayon de la structure, de l'organisation, le rayon qui va ancrer sur Terre dans l'incarnation, les grandes idées.
On l'appelle aussi rayon de la magie ou de l'incantation, du cérémonial, dans le sens où il a une aisance à répéter,
Les
à
mettre dans le
adopter un
rythme.
rythme et à manifester, à créer, à produire les choses. Et puis, il y a aussi un goût assez prononcé pour tout ce qui est magique, hein, tout ce qui est rituel, organisation, jusque dans le plan physique. Donc, le défaut, bien sûr, on va le comprendre, c'est un excès d'organisation. On a toujours les défauts de ces qualités, hein. Donc, une forme de tendance à la routine et à la structure, à la cristallisation. Ça, c'est le défaut
Et ça va produire quoi, le septième rayon, les grands architectes?
Ça peut donner des grands architectes. Je pense que l'administration dans chaque pays, c'est un reflet du septième rayon. Et on la critique d'ailleurs souvent comme ça, c'est que c'est la grosse administration qui a du mal à bouger, à se transformer, parce que c'est normal, c'est un édifice, hein, législatif. C'est par exemple, je disais législatif, je pense à la justice. La justice, c'est une manifestation du septième rayon. Il y a le goût de l'ordre quand même dedans, de la justice justement. Donc voilà, là on a fait vraiment un petit topo, Olivier, hein, vite fait, un petit panorama très très rapide, mais ça touche vraiment à tous les domaines du vivant et c'est une forme de science de l'énergie, hein, les sept rayons. Tous est relié à ces sept rayons et dans l'ésotérisme, on peut dire qu'on apprend ces rayons-là, on apprend d'où ils parviennent, comment ils nous parviennent. D'un point de vue cyclique, si on s'intéresse à l'astrologie, les identités des pays, des animaux, des fleurs, les pierres, et bien sûr les êtres humains sont sous l'influence de
Alors,
ces énergies.
à quoi peut nous servir cette connaissance, David?
Moi, je pense que ça aide beaucoup à développer la tolérance, la compréhension de l'autre, la diversité, le concept d'unité dans la diversité, on le voit avec cet enseignement des rayons.
On va pouvoir mieux se connaître, c'est aussi un apport psychologique, hein, derrière tout ça.
Pour soi-même et pour les autres, accepter la différence. Si on se trouve sur des rayons différents, on ne voit pas les choses de la même manière, on ne suit pas le même sentier, la même voie. Et ça, c'est très important, surtout pour face au fanatisme, pas seulement religieux, mais dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas les mêmes formes de politique, de culture, d'art. Tout va se décliner, être influencé par ces sept grandes variétés d'énergie, et c'est l'idée que ces sept rayons sont simplement la manifestation, la densification de cette grande qualité divine.
Donc, si l'on sait ou si l'on pense savoir les rayons qui nous gouvernent, les rayons qui nous dirigent, chacun d'entre nous, eh bien, on va pouvoir savoir aussi quel piège éviter, dans quelle direction s'orienter, quels sont
Nos défauts.
nos défauts, nos facilités dans la vie.
Tout à fait. Les voies qu'on appelle de forte résistance,
Et
ou les
même
voies de
chose
moindre
pour
résistance.
les pays, alors, puisque les pays, et ça, Alice Bellet ou Benjamin Crème, un auteur plus contemporain, donnent la liste des rayons par pays.
Oui, c'est dans la
Et
mission de Maitreya. Il y
oui,
a
un livre de Benjamin
plusieurs
Crème,
tomes,
hein,
voilà. Et on a donc une longue liste et des initiés, donc leur nom, des gens connus. Leur degré donc d'évolution et leur structure de rayon. Ben là, on n'a pas parlé, mais il y a un rayon pour l'âme, pour la personnalité, pour le mental, l'émotionnel, le physique. Donc on a une structure de rayon parce qu'on est un ensemble d'énergie. On est un être nous-mêmes multiple. Et l'humanité est multiple et unique en même temps.
Alors là, je tombe sur une page avec une expression réalisation du soi. La réalisation du soi. Réaliser d'abord, ça veut dire quoi?
Oui, ça peut faire croire à une forme de fabrication, hein, de production, alors que c'est pas du tout ça.
Ça veut dire quoi? Manifester alors?
Moi, je pense que c'est dans ce sens-là, oui, réaliser, dans révéler, manifester.
Est-ce que c'est aussi dans le sens de se rendre compte de?
Oui, alors c'est peut-être je pense que c'est un anglicisme en fait, hein, parce que on dit pas trop je réalise que c'est on se rend compte en fait. Mais là, il y a une notion de révélation, je pense, c'est-à-dire de quelque chose qui préexiste, qui est là, et on le réalise, on le manifeste, on le découvre, on le dévoile. Encore une fois, hein, les voiles sont souvent associés au corps subtil dans les traditions. Donc on dévoile, on découvre.
Alors le soi, donc le soi ici avec un grand S, et le soi c'est donc ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, cette étincelle divine, selon les enseignements de sagesse, qui peut être individualisée ou pas, hein, selon les enseignements justement.
C'est plutôt que certains enseignements comme le bouddhisme ne reconnaissent pas le soi, mais reconnaissent un état où tout se fond, qu'on appelle la vacuité, et que toutes les choses seraient de la nature de la vacuité en fait. Mais on pourrait dire que la nature du soi, c'est la vacuité. Donc pour moi, c'est deux manières de parler d'un même état, d'une même chose. Mais si on garde le mot soi, alors on trouve le terme Atman dans les enseignements indiens, monade, on trouve
Chez
ça
les
chez
philosophes.
voilà, et chez Pythagore, la monade, après avant la dyade, la triade, la tétrade. Donc la monade, c'est vraiment le un, ce qui est un, indivisible aussi. Hein, l'idée, hein, c'est que ça, dès qu'on a deux, on a déjà une dualité, justement. Mais là, c'est une unité, c'est vraiment ce que l'on est, ce qui nous unit, Jésus dirait, le Père et moi, nous sommes un, ce qui nous unit au Père. Le Père symboliserait notre monade ou l'étincelle du Père en nous, donc c'est la monade, c'est l'esprit aussi. Quand on dit la triade esprit, âme et corps, une triade assez chrétienne d'ailleurs, bah esprit, c'est. On parle aussi du Saint-Esprit, c'est un peu en quelque sorte la descente de Dieu en nous. On a beaucoup ça dans les courants évangéliques, hein, l'idée de qu'on peut contacter l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Donc on peut l'apparenter à la monade, à l'esprit pur, à l'étincelle. Et dans les enseignements indiens, c'est ancré dans le cœur.
Ancré, ça veut dire, c'est là que ça se
C'est comme
situe.
une étincelle. C'est là qu'on réalise le soi. Alors c'est curieux parce que c'est une sensation. Alors c'est pas lié à l'organe du cœur, c'est plutôt quand le cœur poitrine. Et c'est lié à. Alors il y a deux chakras dans la poitrine. Il y en a un qui est à gauche, qui est relié au cœur émotionnel, hein, un centre d'énergie, à nos émotions, et un qui est à droite, dans lequel on peut réaliser, on peut vivre l'expérience béatifique du soi. Une grande expérience d'union, d'unité, avec de relations absolues avec les êtres, avec les choses, avec le monde. On peut dire qu'en quelque sorte, c'est une expérience du soi. Donc en fait, on ne réalise pas le soi du jour au lendemain, ce sont des petites expériences, ici ou là, qui au fur et à mesure grandissent, s'élaborent, s'intègrent en nous. Et les deux moyens, les deux leviers, c'est quand même la méditation et le service. Hein. Les deux moyens de contacter le soi, c'est la méditation. De le révéler, c'est le service. Le but de la méditation, c'est quoi? C'est de révéler ce que l'on contacte. Quand on contacte cette nature profonde, son seul but, c'est de se révéler. Donc on sert, c'est-à-dire qu'on utilise cette partie de nous-mêmes au mieux pour en faire profiter les autres, pour être créatif, pour faire avancer les choses, pour le bien commun. Donc c'est les deux grands leviers de la réalisation du soi, mais il y a d'autres éléments, Olivier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'est-ce qui peut aider à la réalisation du soi?
Il y a des auteurs contemporains qui proposent des petites techniques, hein, des petits tuyaux. Si on prend Eckhart Tolle, par exemple, son bouquin, il s'appelle comment?
Le pouvoir du moment
Le
présent.
pouvoir du moment présent, oui.
Je pensais
Qui
aux
dit
enseignements aussi de Maitreya, donnés
Benjamin Creme.
par Benjamin Crème. Donc Maitreya, on reviendra sur lui, il a un grand sage, le maître des maîtres, dit-on, un grand instructeur spirituel, qui a, dans des causeries à Londres, donné un enseignement qui rappelle beaucoup celui de Krishna, de Jésus, des grands instructeurs spirituels. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que lui entend par l'art de la réalisation du soi?
Ben, je ne sais pas ce qu'il entend, mais ce qu'il donne comme précepte à suivre au quotidien pour essayer de parvenir à cet état, en fait, hein. Donc, il donne trois préceptes, tout simple. Le premier, c'est de travailler à l'honnêteté mentale. L'honnêteté mentale, c'est lorsqu'on dit ce qu'on pense, lorsqu'on pense ce qu'on dit, lorsqu'on fait ce qu'on dit. Hein, et non pas dire une chose, en faire une autre et en penser encore une troisième. Ça paraît tout simple, hein? C'est une sorte d'alignement mental comme ça.
C'est aussi le fait de ne pas s'identifier à des concepts mentaux, à des ismes, dit-il, hein,
Des
des formes
idéologies.
de, voilà, des idéologies intellectuelles, mentales. C'est être libre mentalement, en fait.
Ouais. Deuxième précepte, c'est d'essayer de pratiquer le sincérité de cœur. Sincérité de cœur, c'est lorsque vraiment on est ouvert, on se montre tel qu'on est, on se cache pas, on.
On cherche pas à montrer une autre image de soi-même, même si elle est plus valorisante. On se montre dans sa nudité en quelque sorte. On est plus authentique, on pourrait
Plus
dire.
vrai possible. Et troisième précepte, c'est de travailler ce qu'on appelle le détachement. C'est-à-dire le contraire de l'identification à ce à quoi on s'identifie d'habitude, hein. Ça va depuis l'identification au corps, alors que nous ne sommes pas le corps, hein. Le corps, c'est juste un véhicule pour ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Identification aux émotions, identification aux pensées. Donc se détacher de tout ça, se détacher de du désir, par exemple, de la peur, etc.
Alors ce mot-clé, c'est vraiment le détachement. Il revient beaucoup dans, on pourrait dire, toutes les traditions, à commencer par indienne, hein, toutes les traditions qui traitent de la relation, de la réalisation du soi. Hein. On a toujours ce mot-clé, cette idée de détachement. Mais souvent, c'est compris comme la fuite du monde. Hein. C'est comme une retraite même. Hein. On pense aux ermites, aux ascètes, aux yogis.
Oui, parce qu'on pense à un détachement purement physique ou vis-à-vis de l'environnement. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est le détachement, comment dire, c'est la non-implication dans. C'est comment on dit, David, être du monde et,
Être dans le monde, mais pas de ce monde, ou
Ouais.
oui, c'est quelque chose comme ça. C'est en tout cas l'idée d'être le spectateur de la vie extérieure. Et dans la vie extérieure, si on se place du point de vue du soi, même la pensée fait partie de l'extériorité. C'est ça qui est un petit peu nouveau, peut-être, c'est que même dans ce qu'on appelle la vie intérieure, bah, nos pensées. D'un point de vue ésotérique, c'est de la matière, même si c'est de la matière subtile, mais c'est de la production, c'est éphémère. Et tout ce qui est éphémère, qui vit, qui naît, qui croît, qui meurt, tout ce qui est cyclique n'est pas la réalité. Alors que le soi, c'est quelque chose de permanent, d'atemporel, d'éternel, parce que c'est un fragment de la divinité. Donc c'est ce qu'on entend par le soi ou l'observateur détaché. Et plus on est en contact avec ça, plus on se sent libre. Même quand on pense, quand on ressent quelque chose, on est de plus en plus libre dans ses différents véhicules, hein, dans sa maison, dans son appartement intérieur en quelque sorte, et on accède à ce que Maitreya appelle le salut, la liberté.
Donc la réidentification avec ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire le soi.
Voilà, entre le soi et les véhicules, il y aurait la conscience qui a le choix en quelque sorte de se tourner et voire de se perdre. Dans nos pensées, nos émotions, nos sensations, ou alors de réintégrer sa source, c'est le soi. Le soi, c'est plus qu'un état de conscience, c'est une vie pure, c'est un état d'être pur, hein. C'est quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut se représenter comme bonheur fugace, hein. C'est quelque chose, on vit pleinement, on est pleinement, on vit une forme de béatitude. Même certains auteurs ont parfois, je lisais un jour chez Arnaud Desjardins qui disait. Les sages vivent dans un orgasme permanent. Donc on peut se représenter ce que peut être cet état complet, béatifique, constant. Donc c'est même la
Conscience
notion de.
vivide, éveillée, quoi.
Voilà. Même la notion de bonheur ne serait pas adéquate. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est ça, une réalisation de soi en tant qu'être profond. Difficile à décrire en fait, hein. C'est quelque chose qui s'expérimente.
Qui se vit, ouais.
Olivier, un mot qui revient aussi assez souvent dans la littérature ésotérique, c'est le verso, l'ère du verso.
Oui, parce qu'on entre dans l'ère du verso, dit-on, hein. C'est-à-dire que le soleil poursuit sa course dans le cosmos, enfin dans le système, se met en rapport avec des constellations, on peut dire, et ce cycle prend 26 000 ans, et tous les environ 2150 ans, on passe quelque part d'une constellation à l'autre, et là on est dans cette phase d'entrée dans le Verseau. On vient de quitter le poisson, on pourrait dire, on rentre dans le Verseau. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, on voit bien, c'est des airs qui durent 2160 ans, donc il y a une sorte de chevauchement entre les différentes airs.
On compte 300 ans en gros de chevauchement souvent.
Ouais. Donc on est rentré dans le Verseau depuis 1675 à peu près, disent certains enseignements. On a commencé, donc ça veut dire que l'énergie du Verseau a commencé à venir nous toucher un petit peu, il y a déjà 300 ans. Et
on a vu justement certaines manifestations que l'on peut attribuer à l'énergie du Verseau. Moi je pense aux grandes révolutions. La révolution américaine, française, la révolution bolchevique, industrielle, si elle est même d'un autre ordre, chinoise. On a vu des grands mouvements de population s'unir et se rebeller ou se manifester, soit face à une injustice ou pour faire progresser les choses. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas un instinct grégaire, c'est un esprit de groupe qui croit, qui naît. Et ça, c'est permis grâce à l'ère des poissons qui a développé en nous l'individualisme. Là, on passe de l'individualisme à un ensemble d'individus qui forment vraiment un groupe, et pas un groupe grégaire, mais un groupe ou un début de conscience de groupe, en fait. Hein. Donc, les qualités du Verseau, c'est quoi, Olivier?
C'est la synthèse. Hein, ça se manifeste par la coopération, par exemple, si on veut l'opposer à la compétition qui serait la façon de procéder dans l'ère des poissons. Donc la coopération, la conscience de groupe, donc ça veut dire que dans le futur on agira en groupe de moins en moins de façon hiérarchique, mais plus en réseau, par exemple. Ça se manifeste à mon avis aussi dans le développement de l'informatique et du réseau informatique.
Oui, c'est une sorte de manifestation d'un lien télépathique, plus ou moins ressenti, en tout cas qui est manifesté à travers la toile, le réseau, le net, l'Internet. On a la notion de fraternité qui découle de l'esprit de groupe. Hein. C'est un signe, on dit que c'est le porteur d'eau. Il est souvent représenté comme un porteur, quelqu'un qui porte une cruche et qui verse de l'eau du ciel vers la terre. Hein, c'est l'eau de vie, l'eau de régénération. C'est l'eau céleste en quelque sorte, hein. C'est l'idée d'une vie plus abondante. matériellement, psychologiquement, spirituellement surtout. Donc on a, c'est dit aussi que dans le Verseau, on fait souvent un parallèle avec le sang doit aller dans toutes les parties du corps, donc il est normal qu'au niveau de la planète, les richesses du monde, les ressources pour vivre tout simplement, soient réparties de façon convenable partout dans le corps planétaire. On ne pourrait pas accepter que seul le foie ou le cœur, par exemple, reçoivent tous les nutriments, il faut qu'ils aillent partout dans le corps. Donc on fait souvent un parallèle entre l'économie, la santé d'une entreprise ou la santé planétaire et la santé du corps humain. Hein. Il y a un lien entre tout cela. Et donc le Verseau va se soucier, l'énergie du Verseau va faire que l'on va se soucier d'un plus juste équilibre. Et c'est une manifestation de notre fraternité, ça, c'est pas théorique. On a vu qu'on sort d'une ère des poissons. Donc c'était une ère très idéaliste. On a formulé la Déclaration des droits de l'homme. Il reste à appliquer ces principes-là, qui sont très simples en fait. Hein. Tu peux nous rappeler, Olivier, les quelques principes de la Déclaration des droits de l'homme là, qui nous concernent plus particulièrement.
Oui, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, hein, dans son article 25, le stipule que chaque être humain a le droit à de la nourriture en quantité suffisante, la nourriture adéquate, et que chaque être humain a le droit à avoir un toit, un abri, que chaque être humain a le droit d'avoir accès aux soins de santé et accès à l'éducation.
Et ça, c'est à portée de main, c'est pas quelque chose de... C'est pas une utopie, en fait.
Ça serait tout à fait faisable, hein, tout à fait faisable, d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel.
Il faut quoi, un peu plus de 100 milliards par an?
Oui, 120 milliards par an, d'après l'ONU. 120 milliards par an, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'on a pu financer dernièrement.
Donc on va...
Et donc ça, c'est le Verseau qui va permettre voilà. Ces énergies du Verseau vont nous inciter, nous stimuler vers ça, cette unicité de l'humanité.
Et donc on voit aussi la notion d'ONG, d'association, de manifestation dans les rues. On a eu des millions de personnes dans les rues contre la guerre, par exemple. Ça, c'est un fait sociologique complètement nouveau. On n'a jamais eu ça. On avait des petites révolutions populaires, plus ou moins instrumentalisées, alors que là, elles sont spontanées, elles se font d'eux-mêmes. Et elles sont pour réclamer aussi une même chose, enfin grosso modo, hein, justice, paix, partage. Ça aussi, c'est un phénomène nouveau. Et Olivier, tu nous as souvent parlé des créatifs culturels. Est-ce que tu peux dire quelques mots? Est-ce parce que c'est une forme de manifestation de l'énergie du Verseau, ça, les créatifs culturels?
Oui, c'est un groupe sociologique, en fait. Hein. Il y aurait aux États-Unis trois grands groupes sociologiques. Les modernistes, pour qui le temps, c'est de l'argent, pour qui le paraître est important, l'argent, tout ça, le travail. Et le deuxième groupe, c'est les traditionalistes.
Réactionnaires, en fait, quelque sorte.
Des gens qui se rattachent beaucoup au passé, oui. Un passé qui est souvent un mythe, mais il se rattache à ces mythes-là. Et un troisième groupe qui représente un quart quand même de la population, qui serait les créatifs culturels, parce que ce sont des gens qui sont en train de créer là, en fait, la culture de demain, et qui, eux, ont comme caractéristique d'essayer de vivre en cohérence avec ce qu'ils pensent, avec leurs valeurs intérieures, en fait. Et ce sont des valeurs... je dirais, par rapport aux autres groupes, plus orientés vers l'authenticité, vers une dimension féminine, on dirait, de nos jours. Des gens qui veulent vraiment une cohérence intérieure entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils font.
Donc elle est créative, elle a un caractère spirituel aussi, je crois savoir. Il y a quand même des... enfin, philosophique, spirituel, il n'y a pas une philosophie matérialiste derrière.
Non, oui, c'est pas des gens modernistes qui cherchent à avoir toujours plus. Hein. Donc, ce sont des gens qui peuvent au contraire s'orienter vers une vie plus simple au niveau matériel, pour respecter leurs idées, par exemple en matière d'écologie.
Est-ce qu'on pourrait dire que l'écologie, donc les créatifs culturels, on a compris, sont des groupes qui sont nés en quelque sorte sous l'impact des énergies du Verseau?
Oui, c'est récent, hein. c'est né dans les années 60. Hein.
Est-ce qu'on peut dire que la conscience écologique est aussi un avatar de cette énergie-là?
Je ne sais pas. Je pense qu'elle se répand, la conscience écologique, hein, dans tous les groupes sociologiques, en fait.
Oui, mais ce que je voulais dire, ce n'est pas par rapport aux créatifs culturels. Là, si on sort du cas des créatifs culturels, si on revient sur ce concept d'énergie du Verseau qu'on essaye de hein, de sentir, de percevoir.
Alors, oui, on peut dire ça, parce qu'effectivement, c'est que dans le Verseau, on va s'apercevoir qu'on fait un avec la nature aussi, et que l'homme fait partie de la nature. Ça commence à se répandre, cette idée-là, quand même. C'est formidable.
Donc, on rejoint la notion de fraternité. Il n'y a pas seulement une fraternité humaine, il y a une fraternité presque biologique, écologique.
Mmh, avec l'ensemble de la
planète. Avec le vivant. Donc, y compris les humains, mais en plus avec les différents règnes. Est-ce qu'on peut ouvrir ça plus largement encore ?
Et je me demandais, David, s'il nous reste un moment, est-ce que tu pourrais faire un lien peut-être entre cette ère du Verseau et l'âge d'or dont on parle souvent dans certaines traditions ?
Oui, alors dans les traditions, souvent il est question d'un, soit d'un Kali Yuga, d'un âge sombre, qui correspond en fait à deux ères zodiacales, celle du bélier, des poissons. Et qui, ça, parce que ça représente un cycle de en gros 4000 ans, hein, 4320 ans pour le Kali Yuga en Inde, un petit cycle. Et les religions ont tout simplement évoqué d'une façon allégorique la fin de cet âge sombre qui devait déboucher sur un âge d'or, sur un nouvel âge. C'est ça le New Age. Hein. Le nouvel âge, c'est un concept presque astrologique. C'est tout simplement le cycle du Verseau, c'est pas la fin du monde. Pas du tout, c'est la fin d'un ancien monde, d'une époque ancienne, d'un cycle ancien. Et là, on est à l'orée, au bord, justement, au début d'une nouvelle culture, d'une nouvelle civilisation, donc fondée sur des valeurs qui vont, on l'a vu, hein, inclure l'ensemble du vivant. Et ça va très très loin, parce que selon les enseignements ésotériques, un cinquième règne va venir s'ajouter en conscience, parce qu'il a toujours existé, à la vie sur Terre, c'est celui des maîtres de sagesse. Donc on est vraiment à l'orée d'une explosion, d'un choc culturel, d'une transformation de notre façon de vivre, alors politique, économique, sociale, écologique, nos modes d'éducation, d'enseignement, donc nos cultures, mais également une sorte de révolution spirituelle, pas seulement religieuse, mais cette idée qu'on n'est pas seul, qu'il y a des évolutions supérieures, les maîtres de sagesse, qu'on n'est pas seul non plus dans l'univers, cette idée commence à faire son chemin. Donc tout ça est inclus dans cette notion d'âge d'or.
Mmh. Donc c'est une bonne nouvelle en fait de rentrer dans le Verseau, c'est bien.
Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle, mais on est encore dans la période de crise en fait, hein, où l'ancienne énergie sature nos institutions, notre vie, alors qu'une nouvelle énergie arrive, n'a pas encore les réceptacles et les moyens de s'exprimer pleinement. On est dans un état de crise.
Mmh. On perçoit que quelque chose de nouveau va arriver, mais on n'a pas encore les moyens de le mettre en œuvre vraiment. Quoi.
On s'essaye, on s'entraîne, mais on sent bien que il y a une nouvelle énergie qui vient et les jeunes sont beaucoup plus réceptifs encore à cette nouvelle énergie. Oui.
Alors, bah, sur cette bonne nouvelle, on va arrêter pour aujourd'hui, David. On va refermer notre dictionnaire de sagesse ancienne et puis se retrouver le mois prochain pour de nouveaux mots.
Merci, au revoir à tous.
Bonsoir.